La revue de presse internationale avec vous Camille Manière, bonjour.
Bonjour.
Et autant le dire tout de suite, hein, il est très difficile d'y voir clair dans ce qui est en train de se passer au Venezuela et la lecture de la presse vénézuélienne n'aide pas forcément Camille.
Non, c'est vrai, dans cette presse, c'est ultra polarisée, propagande entre les pro-Maduro, les loyalistes et les pro-Guaido favorables au changement de régime. Selon la chaîne de télé que l'on regardera, le journal que l'on lira, on se convaincra donc, ou bien que Juan Guaido et les quelques centaines de militaires acquis à sa cause ont échoué ce mardi à mener un coup d'État fomenté depuis Washington. Ça, c'est par exemple la version transmise par Télésur, la chaîne financée par l'État, qui donne une large place ce matin aux appels lancés par Nicolas Maduro à la mobilisation des citoyens ce mercredi pour défendre la nation et la révolution bolivarienne. Maduro qui se félicite que l'État-major militaire lui ait renouvelé dans la soirée sa loyauté. Il tourne aussi en ridicule les événements d'hier, cette escarmouche, dit-il, de soldats qui a voulu mener un coup d'État sur une autoroute. Qu'est-ce qu'il pensait abattre là-bas, s'interroge le président, évoquant les images de ces soldats arborant brassards bleus couleur des pro-Guaido, amplement photographiés hier sur le pont depuis lequel ils braquaient leurs fusils mitrailleurs sur la route déserte. Mais à lire El Nacional, cette fois, on entrevoit un Nicolas Maduro qui n'a vraiment pas de quoi faire de l'humour. Estefanie Brito, la journaliste, écrit que la peur a changé de camp, que les citoyens qui ont répondu ce mardi à l'appel de Juan Guaido ne quitteront plus la rue, en tout cas jusqu'à ce que l'usurpation madouristes prennent fin. Ils n'ont plus rien à perdre, on leur a tout pris. Alors, peu importe le temps que ça prendra, le coût humain qu'il faudra payer, la lutte devra déboucher sur le retour glorieux à la démocratie. Car même inachevé, le soulèvement militaire de la caserne Carlota hier à Caracas n'est, selon le journal El Nacional, que le début de la fin promise de Nicolas Maduro. Le journal d'opposition en ligne annonçait pour hier une journée historique, ça n'a pas franchement marché. Alors on reprend le qualificatif pour aujourd'hui, mercredi, avec l'annonce donc de nouvelles manifestations massives d'opposition.
Et pour se redonner du courage, Camille, le camp du président autoproclamé Juan Guaido peut aussi lire la presse étrangère.
Et la BBC par exemple, qui cite des informations américaines selon lesquelles Nicolas Maduro, poussé par trois de ses plus proches lieutenants, était tout près hier de quitter le pouvoir, prendre un avion pour aller se réfugier à Cuba. Selon le secrétaire d'État américain Mike Pompeo, c'est Moscou, la Russie, qui a forcé le président à rester à Caracas et à affronter cette nouvelle crise. On ne saura sans doute jamais s'il s'agit d'informations de propagande destinées à intoxiquer les chefs de l'armée vénézuélienne, les pousser à déserter. Mais pour le média russe Lenta, il s'agit bien de fake news forgées à la Maison-Blanche et qui ne sont rien d'autre qu'un aveu que la tentative de coup d'État d'hier a lamentablement échoué. Dans le journal brésilien O Globo, on nous apprend que 25 militaires vénézuéliens ont demandé et obtenu l'asile politique au Brésil. Alors, 25, ce n'est pas beaucoup, mais ça nous est présenté comme un signe de basculement possible et massif de l'armée contre Maduro. On sent bien que le Venezuela n'a jamais été aussi divisé, qu'il y a une guerre médiatique, psychologique aussi, qui est en cours pour faire basculer les militaires et l'opinion d'un côté ou de l'autre. Sur quoi est-ce que cela ça va déboucher? Eh bien, personne ne se risque à le pronostiquer, mais c'est vrai que ce 1er mai semble tout avoir, c'est vrai, pour être une journée historique.
Et l'histoire, justement, s'écrit aussi aujourd'hui au Japon, où le nouvel empereur Naruhito vient d'accéder au trône de Chrysanthème.
Et ça, c'est la suite logique de l'abdication hier de son père, Akihito, dont on retiendra avec le Washington Post que ces efforts déployés pour moderniser la maison impériale nippone, tout en respectant, bien sûr, ses traditions vieilles de 2 millénaires et demi. Mais tout de même, pour ce qui est de la modernisation, on repassera, nous dit le Washington Post, en ce qui concerne en tout cas la place des femmes dans la famille impériale. Et pour illustrer cette place, un bon pas en arrière derrière l'empereur, eh bien rien de mieux que de faire le portrait de la nouvelle impératrice Masako. D'elle, en lisant l'Asahi Shimbun, quotidien japonais, on comprend qu'elle incarne tout le problème. Elle était une diplomate brillante, promise à une grande carrière. Elle a résisté pendant 2 ans aux avances du prince héritier Naruhito. Et finalement, quand elle est devenue princesse, elle a dû renoncer à ses ambitions, à son autonomie, et elle a sombré dans ce que la presse japonaise appelle poliment des troubles de l'adaptation, ou bien si vous préférez une profonde dépression qui l'a tenue à l'écart de toute mondanité pendant une décennie. Depuis qu'on a appris l'abdication de son beau-père et donc l'accession de son mari au trône, Masako est réapparue progressivement sur la place publique, on l'a dit plus solide après des années de thérapie, prête à affronter sa charge protocolaire, mais de toute façon la désormais impératrice Masako n'était pas conviée ce matin à la cérémonie d'intronisation de son mari. mari, puisque les femmes, c'est la tradition, n'y ont pas leur place.
Et puis, autre tradition, Camille, la fille unique du couple impérial, Aiko, 17 ans, ne pourra pas succéder à son père.
Et non, puisque, nous explique Reuters, la maison impériale japonaise fonctionne sur la règle stricte de la patrilinéarité. Et donc, Aiko, pourtant seule descendante directe de l'empereur, c'est comme si elle n'existait pas dans l'ordre de succession. Le prince héritier, c'est désormais le frère cadet de Naruhito, Aki Shino, suivi de son fils Issa Ito, qui est aujourd'hui âgé de seulement 12 ans. Autant dire que l'on commence à manquer sérieusement d'héritiers mâles au Japon. Ça inquiète Reuters, qui nous dit pourtant qu'une majorité de Japonais semble favorable à ce que la règle change pour que des femmes puissent accéder au trône. En 2001, à la naissance d'Aiko, on avait commencé à évoquer sérieusement cette possibilité, mais en 2006, le neveu Issa Ito était né. Il y avait donc un garçon pour perpétuer la lignée et ça avait coupé court à toute idée de modernisation. Entre-temps, la princesse Masako subissait des pressions familiales pour donner d'autres enfants à Naruhito, de préférence des garçons. Elle n'y a pas réussi et ça n'a sans doute rien arrangé à ces années de dépression, à croire ce qu'en dit le Washington Post. Voilà donc, quand vous entendrez parler de la nouvelle ère Reiwa qui débute aujourd'hui au Japon, qui est synonyme de beauté et d'harmonie, eh bien vous pourrez tout de même avoir une pensée pour ces femmes sacrifiées de la famille impériale.
Merci beaucoup Camille Manière pour cette revue de presse internationale qu'on peut retrouver sur le site de France Culture.